Africa.
Le grand rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
Et nous allons retrouver nos invités dans quelques instants pour parler des 10 ans de la mobilisation des Sénégalais dans ce qui est appelé le M23. Mais d'abord, retrouvons notre invité Décryptage.
Décryptage dans le grand rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
Amadou Ould Abdallah, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes diplomate mauritanien et envoyé spécial de l'Organisation internationale de la francophonie pour le suivi de la situation au Tchad. Vous venez d'effectuer une mission d'une dizaine de jours en N'Djamena où vous avez rencontré, entre autres, les membres de la société civile, des responsables de partis politiques ou encore les autorités militaires au pouvoir. Que retenir de vos échanges avec eux?
J'ai rencontré le président, le premier ministre, le ministre des Affaires étrangères, et des parlementaires, mais aussi, comme vous dites, les représentants de la société civile et des membres de la communauté internationale, y compris les Nations Unies. Ce que je retiens, c'est, comme l'a pensé la secrétaire générale de l'OIF, Louise Mushikiwabo, un désir des Tchadiens de dépasser leur crise aussi vite que possible et d'aller au-delà de certains débats qui, tout en étant réels, tout en étant vrais, ne règlent pas le problème, c'est-à-dire comment ce gouvernement est venu au pouvoir, comment se comporter avec les rebelles, comment se comporter avec la société civile, au-delà de ça, comment revenir à une situation normale, apaisée aussi vite que possible et voir comment financer ce retour sans tomber dans des excès, soit le genre de conférences nationales des années 90 qui sont longues, coûteuses et qui ne sont plus d'actualité.
Certains acteurs politiques continuent de dénoncer la prise de pouvoir par les militaires et aussi l'intrusion, selon eux, de la France, accusée d'avoir imposé le fils Déby. Quelle est votre réponse à cette préoccupation et qu'avez-vous dit à ces acteurs qui continuent de réclamer une transition civile?
Écoutez, dans un pays, quel qu'il soit, il y a toujours des divergences de vues et d'opinions. En tout cas, que j'ai eu, en écoutant les uns et les autres, c'est devant la situation actuelle où ce pouvoir est venu par des choses, les gens considèrent, en tout cas les gens du pouvoir considèrent, il ne s'agit pas d'un coup d'État, le président étant mort sur le front et les rébellions n'étant pas loin des capitales, comment faire face au plus pressé? Mais tout cela n'est qu'un élément de la réponse. La réponse est maintenant, devant cette situation, comment avancer dans un esprit consensuel? Et c'est ce que j'ai ressenti aussi bien au niveau des autorités qu'au niveau la demande des partis et de la société civile. Comment commencer un dialogue, comment l'organiser et comment les partenaires étrangers peuvent y aider sans tomber dans les dérives des dialogues des années 90.
Une partie de la classe politique tchadienne, dont la coalition Wakitama, demande un dialogue inclusif avec la participation de la rébellion du FAT, officiellement responsable de la mort du défunt président Déby. Y êtes-vous favorable?
Je n'ai pas à être favorable ou non. Je suis parti dans une mission d'information d'abord. En principe, ce que je peux vous dire, c'est quand on fait un dialogue, il faut s'ouvrir à tout le monde. Et si on met des préconditions, ça complique les choses. Le point que je veux faire, c'est surtout l'importance de la société civile dans les capitales africaines, y compris le Tchad, c'est-à-dire les hommes d'affaires, la jeunesse, les travailleurs, les partis politiques. Il faut savoir que dans nos pays, les capitales abritent plus du tiers de la population et les étouffent. Il faut qu'on change nos modèles de pensée pour tenir compte de ces difficultés des capitales du Sahel et même de toute l'Afrique, surpeuplées, coûteuses, très étendue, où les transports sont difficiles, mais où les populations sont de plus en plus intégrées au-delà des tribus et des régions. Les vraies bombes à retardement, ce ne sont plus autre chose que ce problème que je viens de vous citer sur les capitales. Et les Tchadiens semblent conscients, aussi bien le gouvernement que les politiques et la société civile.
Certains souhaitent que le dialogue soit facilité par des organisations ou personnalités non tchadiennes. L'OIF se tient-elle disponible pour le faire?
Je sais qu'avec mon collègue de l'Union africaine et d'autres, nous serons toujours disponibles, comme ceux de l'organisation régionale à laquelle appartient le Tchad. Mais le meilleur des choses, c'est que les Tchadiens se mettent d'accord eux-mêmes sur une position et leurs amis et partenaires étrangers seront prêts à les disposer. Il y a une priorité, c'est comment aller vite la transition réussisse pour l'après.
Comment qualifieriez-vous la situation politique actuelle au Tchad?
Elle ressemble à celle de plusieurs pays du Sahel. Nous sommes dans des pays fragilisés par plusieurs années de crise économique et politique, par une forte démographie, 66% de la population est des jeunes, ne pouvons plus les gérer comme dans les années 60 ou 70. Nous ne sommes plus seulement avec l'Europe, il y a de plus en plus de partenaires non traditionnels, si je puis dire, comme la Chine, je veux dire politiquement, ou la Russie, ou des pays du Moyen-Orient.
Ahmed Ould Abdallah, merci beaucoup.
Merci.
Diplomate mauritanien et envoyé spécial de l'OIF pour le suivi de la situation au Tchad.
Africa. Le grand rendez-vous sur Africa Radio.
Bienvenue si vous nous rejoignez. Nous parlons ce soir dans votre émission du 10e anniversaire du M23, commémoré dans la division le 23 juin 2011. Le mouvement du 23 juin est lancé à Dakar, au Sénégal, après le retrait, sous la pression des manifestations dans la capitale et à l'intérieur du pays, d'un projet de loi instaurant l'élection simultanée du président et du vice-président de la République. Le texte fut retiré avant le vote des députés et cela a été considéré par l'opposition sénégalaise comme une victoire. Alors, 10 ans après, où en est l'héritage de ce mouvement? Où en sont les principes démocratiques de bonne gouvernance et de l'état de droit pour lesquels les manifestants s'étaient mobilisés? C'est notre débat du jour avec 3 invités. Kafor Kandji, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Kandji. Vous êtes membre de la coordination du mouvement Il y en a marre à Dakar, au Sénégal. Docteur Abdoulaziz Mbodji, bonjour.
Bonjour madame.
Ou plutôt bonsoir, vous êtes docteur en droit public et constitutionnaliste, également maître de conférence à l'université Alun Diop de Bambé. Et en ligne avec nous ici en France, Abdou Fleur, juriste et cadre de l'APR, c'est le parti au pouvoir au Sénégal. Monsieur Fleur, bonsoir.
Bonsoir madame.
Merci
bonsoir
à vous.
Toutes et à tous.
Merci beaucoup à vous, messieurs, d'être avec nous. J'espère que M. Kafor Kandji est bien là et qu'il nous entend.
Oui, je vous entends bien, oui.
Bienvenue, M. Kandji. Je commence d'ailleurs par vous, hein, pour nous rafraîchir la mémoire, même si j'ai résumé en début d'émission les revendications du M23 en 2011. Mais dites-nous, par vos propres mots, quelles étaient les principes, les principales exigences, vous, du mouvement Il y en a marre, à l'époque, en pointe dans cette mobilisation?
En fait, il faut comprendre que c'était juste une question de refuser une dévolution monarchique du pouvoir. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées avant 23 juin, mais 23 juin a été marqué par quand même l'introduction ou bien le vote par l'Assemblée nationale d'une loi où figurait un quart bloquant, le quart bloquant, on sait tout. Et aussi, d'autres points, il faut le souligner, parce que lorsqu'on avait introduit ce texte-là, il y avait ces mouvements, il y avait ce mouvement, cette indignation. Et le président de la République, je me souviens, à travers son porte-parole, avait dit non, on retire le carte bloquant. Mais nous avions exigé tout le texte, parce que c'était tout le texte qui favorisait une dévolution monarchique. Donc,
c'est-à-dire, pour parler de dévolution monarchique, à l'époque, il était question d'élire le président et le vice-président en même temps, et vous soupçonniez alors, ou le M23 soupçonnait le président Abdoulaye Wade de vouloir transmettre le pouvoir à son fils à travers l'instauration de la vice-présidence.
Mais ce n'était même pas des soupçons, mais vu les responsabilités confiées à son fils à l'époque, tout menait à croire que lui, il s'agissait effectivement d'une dévolution monarchique de notre pouvoir. Et c'est cela que nous combattions à travers le M23 et que d'autres personnes qui ne faisaient pas partie prenante de M23 aussi luttaient. Donc pour revenir un peu, pour ramasser d'une manière générale, c'était pour refuser une dévolution monarchique de notre pays qu'on s'est bâti, qu'on s'est levé et constitué un bouclier pour dire non à cette loi-là qui était anticonstitutionnelle, antidémocratique.
Et rappelons qu'à l'époque, des faits, Karim Wade occupait, je crois, 4 portefeuilles ministériels, d'où le surnom du ministre du Ciel et de la Terre.
Effectivement. Et son père avait dit devant les médias que mon père... En fait, c'était une façon de nous dire que mon fils est plus intelligent parmi les 15 ou bien 14 millions qui comptaient à l'époque les Sénégalais.
Merci beaucoup, M. Kandi, pour ce rappel. Hein. Abdou Flore, aujourd'hui, on parlait de manifestation, de commémoration sous le signe de la division. Deux camps se disputent la paternité du M23. Il y en a un qui est proche du pouvoir, l'autre, le M2D, plutôt de l'opposition. Aujourd'hui, pour vous, lequel des deux camps a le plus de légitimité de revendiquer l'héritage du M23?
Merci beaucoup, madame. J'en profite pour saluer tous vos auditeurs et auditrices. Je profite aussi de cette tribune pour saluer tous mes camarades républicains de la diaspora, tous les Sénégalais de la diaspora et du pays. Pour compléter par rapport à ce qu'il a dit et surtout répondre à votre question, je pense que le mouvement du 23 juin n'est pas une révolution, comme certains le pensent ou le disent. C'était un mouvement spontané contre une dévolution monarchique qui était très claire, sans ambiguïté. Plus surprenant venant de mettre...
Pardon, même si le président Wade à l'époque s'en défendait, évidemment.
Tout à fait. Un grand démocrate, comme on aimait l'appeler, qui voulait quand même, au-delà de ce projet de dévolution monarchique, nous imposer le quart bloquant. Le premier qui arrive avec 25% devient le président avec ce ticket, donc qui assurait la succession de son fils. Donc ce mouvement a été spontané et je pense que ce n'est pas une révolution et c'est pourquoi moi je m'étonne même qu'une certaine opposition, surtout pas celle qui aujourd'hui revendique cette paternité, qui était dans des salons dorés, ou des bureaux feutrés ou salons dorés, comme on le dit, en 2011, qui aujourd'hui veulent torser le bon bout, nous tympaniser. Donc je pense que si...
Je suppose que votre pic est adressé au PASTEF, peut-être
Naturellement, et du MDD.
Membre du M2D.
Et du M2D, qui n'est rien d'autre que le bras armé de PASTEF. Ça, je pense que tout le monde le sait. La plupart des gens qui se revendiquent de la société civile sont des militants déguisés du PASTEF. Donc pour revenir à votre question concrètement, s'il y a quelqu'un qui doit vraiment revendiquer cet héritage, c'est le peuple sénégalais. C'est en particulier la jeunesse, surtout ceux qui sont disparus. Je pense à quelqu'un comme Mamadou Diop et tant d'autres qui sont morts dans des circonstances très difficiles, très compliquées. On les oublie et malheureusement, à chaque fois que le 23 juin arrive, au lieu d'en faire une journée de commémoration, une journée de dialogue national, une journée de concertation sur les grands enjeux, sur les défis du monde actuel qui interpellent notre pays, qui interpellent l'Afrique et au-delà le monde, on a fait une récupération politique à n'en plus finir.
Merci.
Et c'est vraiment dommage. Je pense que le vrai gagnant, c'est la jeunesse, en particulier les étudiants, donc le peuple, la société civile.
Docteur Mbodj, vous êtes d'accord avec M. Flore qui estime qu'aucun des deux camps politiques n'a la légitimité de revendiquer l'héritage du M23?
Bon, c'est difficile à dire. Bon, c'est dilemme politique autour. Mais bon, je pense que oui, il a absolument raison que c'est une œuvre du peuple sénégalais. évidemment, mais cette œuvre-là a un contenu. Maintenant, ceux qui respectent
et puis,
la ligne.
Et puis, il y a aussi des leaders, il y a aussi des gens qui ont mené le peuple sénégalais à cette. Oui. Qui ont conduit cette mobilisation.
Non, tout le monde. Moi, j'y étais. Et personne. J'ai pas. Ce jour-là, j'ai cessé mon cours. J'étais déjà enseignant. J'ai cessé mon cours et je suis parti à la place, justement, donc, Soweto. J'ai passé la journée là-bas. J'ai croisé là-bas tout le monde. Beaucoup de gens, même beaucoup de ces jeunes-là qui sont de PACEF, qui sont de la société civile, des gens qui ont, même ceux qui ont porté le combat, alors donc ne sont pas comme les Birahim Sek du Forum Civil. En vérité, ce sont ces gens-là qui avaient porté le combat.
Mais donc, soit, vous voulez dire que vous ne comprenez pas le déchirement autour aujourd'hui de l'héritage du M23, comme ce à quoi on assiste aujourd'hui, journée de 10 ans?
Non, je veux faire deux choses, donc une précision terminologique par rapport, parce que les définitions déjà qu'ils donnent, par rapport au projet de loi, je pense qu'il y a un problème de compréhension. On parle de dévolution monarchique et tout. Je pense qu'il faudra qu'on recadre ça. Et donc, quelqu'un a parlé de carte bloquant. Ablaïr l'avait baptisé comme ça. C'était pas un carte bloquant. Du point de vue constitutionnel, c'était un carte passant. Bon, je pense que même Fleur, en parlant, il a dit effectivement que quand tu as 25%, tu passes. C'était en vérité une élimination du deuxième tour. Au Sénégal, il y a un acquis démocratique. L'acquis démocratique, c'est que le président est élu au suffrage universel direct. Donc, au scrutin majorité à deux tours. Ablaïr Wad, estimant que sa légitimité avait complètement, justement, en deçà de sa possibilité d'être élu, donc il a voulu justement réviser les modes d'élection du président de la République, évidemment, parce que déjà le ticket était déjà consacré. C'était pas ce jour-là qu'on a consacré le ticket.
Pardon, monsieur Mbodji, faute de temps, on ne va pas revenir, mais alors, en deux
maintenant,
mots, voilà.
Maintenant, par rapport à l'héritage, le M23, c'est-à-dire que les manifestations du 23 juin, c'est un contenu, une philosophie. C'est un patriotisme constitutionnel, le respect de la démocratie sénégalaise, la défense de la démocratie sénégalaise, la défense des libertés, donc, et la défense justement de la bonne gestion. Est-ce que les gens du pouvoir sont dans cette perspective-là? Donc, est-ce que ce sont les gens de l'opposition qui justement qui ont raison? Mais il faudra voir, il faudra faire le bilan des 10 ans. Si Ablaïr a perdu son pouvoir, c'est grâce à ces manifestations. Si Macky Sall a accédé au pouvoir, c'est grâce à cette manifestation du 23 juin. Mais Macky Sall, aujourd'hui, il faudra constater qu'il y a véritablement beaucoup de remises en cause, beaucoup de reculs, alors même des atteintes beaucoup plus graves que ce que devait constater la loi du 23 juin.
Rassurez-vous, Dr Mbodji, nous en dirons quelques mots dans la seconde partie de cette émission sur justement l'état de cette démocratie aujourd'hui et des libertés publiques pour lesquelles les Sénégalais s'étaient donc mobilisés il y a 10 ans. On se retrouve dans un instant, messieurs.
Africa. Le grand rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
Quel héritage pour le mouvement du M23 commémoré ce 23 juin dans la division au Sénégal? Nous en débattons ce soir avec Dr Abdulaziz Mbodji, docteur en droit public et enseignant à l'université Aliou Diop de Bambey au Sénégal. Kafor Kandi, membre de la coalition de la coordination du mouvement Il y en a marre à Dakar, et à Abdou Fleur, juriste et cadre de l'APR ici en France. Monsieur Kandi, je reviens à vous pour évoquer ce qu'a dit Monsieur Fleur, notamment, qui ne comprend pas que la classe politique revendique un héritage et qui, selon lui, appartient au peuple sénégalais.
Oui, je rejoins mon homonyme Abdou. Et le professeur Mbodji sur l'impossibilité de revendiquer la paternité du M23. Il est impossible aujourd'hui pour aucune organisation, aucune personnalité que ce soit, de déclarer, de revendiquer la paternité du 23 juin. Ça appartient au peuple sénégalais. Ça, c'est quelque chose qu'il faut quand même évacuer.
Mais dans ce cas, quelle est l'intention, quel est le calcul derrière cette revendication à la fois d'un mouvement proche du pouvoir, le M23, et de l'autre, de l'opposition, le M2D, donc qui revendique l'héritage de ce mouvement?
C'est là où j'allais en venir, parce qu'il ne faut pas oublier que oui, aujourd'hui il y a d'un côté les personnes qui sont souvent reprocher être proche du régime. Et ce qu'il y a, c'est que le régime, depuis qu'il est là, le régime de Macky Sall a quand même commis des actes ou bien a fait des choses qui ont contribué à la fragilisation de notre démocratie. Et aujourd'hui, des personnes qui se sont battues lors du 23 juin, considèrent que ces personnes-là ont contribué à fragiliser nos institutions, à fragiliser notre justice. Donc, aux yeux de ces personnes-là, ils ne peuvent pas célébrer le 23 juin aux côtés de ce régime-là. Et de l'autre côté, il y a entre-temps l'émergence d'une autre dynamique qui est M2D, qui porte des revendications sociales, politiques, légitimes. Et je comprends d'ailleurs, la volonté de M. Abdi de réduire M2D à une bras armé. Je suis vraiment désolé d'entendre cela. Oui, autant on peut reprocher aujourd'hui M2D de bras armé de Sonko, mais M23 aussi, on pouvait le reprocher le bras armé de Macky Sall à l'époque, parce que c'est les mêmes dynamiques, c'est pratiquement les mêmes revendications qu'aujourd'hui. Donc pour moi, il est inconcevable de déclarer M2D. Nous, par exemple, du mouvement Yann en Marche, nous sommes dans M2D, nous sommes partie prenante dans M2D, mais nous ne soutenons pas Sonko, nous ne votons pas pour Sonko, nous n'appellerons jamais à voter pour Sonko. Donc pour moi, il faut avoir un regard quand même lucide, regard citoyen sur ce qui se passe aujourd'hui.
Merci beaucoup. Et on va, je vais rester avec vous pour dire deux mots, hein, Monsieur Kandi, sur votre appréciation de la gestion des acquis obtenus par cette mobilisation il y a 10 ans, par Macky Sall justement.
En fait, il n'a pas du tout l'héritage. Tout le monde pensait que Macky Sall allait contribuer allait continuer ou bien prolonger la lutte du 23 juin. C'est-à-dire quoi? Rendre fort notre institution, continuer à consolider notre démocratie. Mais aujourd'hui, on voit tout le contraire.
Vous disiez à l'instant qu'il a fragilisé la démocratie, la justice et les institutions.
Mais oui, et la naissance du M2D le prouve aujourd'hui. Parce que c'est né d'un constat que notre justice n'était pas indépendante. On assiste à l'élimination systématique de candidats d'opposants en utilisant ou bien en instrumentalisant la justice. Donc ça, c'est une fragilisation de notre démocratie. Et revenons plus en arrière. Macky Sall, et oui, il n'a pas participé aux actes nationaux, mais il avait promis de mettre en œuvre ou bien d'appliquer certaines décisions issues des actes nationaux. Qu'est-ce qu'il en a fait? Rien. Il a encore commandé des recommandations à la CNRI. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait de ces recommandations? Aujourd'hui, le Sénégal est la risée du monde sur tous les plans, sur le plan de la démocratie, sur la liberté, sur la restitution de l'espace politique et l'espace civique. Oui, et je l'assume. Macky Sall a aujourd'hui fragilisé les acquis démocratiques.
Merci, M. Kandi.
Qui ont été obtenus par la M23.
Merci.
Qui ont été obtenus lors du 23 juin.
Merci. Abdou Fleur, j'imagine que vous ne partagez pas ces accusations selon lesquelles Macky Sall, qui a un an plus tard bénéficié de cette mobilisation à travers le tout sauf Abdoulaye Wade à l'élection présidentielle 2012, est accusé d'avoir saboté les acquis du M23.
Je ne partage pas ce que vient de dire mon homonyme. Naturellement, parce qu'il ne faut pas oublier que Macky Sall était l'un des principaux acteurs du M23.
Et bénéficiaire un an plus tard.
Mais justement, c'est pourquoi il a intérêt plus que tout le monde à s'approprier les revendications et les satisfaire. C'est ce qu'il a essayé de faire quand il est arrivé au pouvoir, à travers d'abord un large dialogue, une large concertation nationale dirigée par Amadou Mastambou. Et les conclusions ont été reprises, et même beaucoup, beaucoup de ce qui a été dit lors des assises nationales a été repris par le président Macky Sall. Donc, ne l'oublions pas. Mieux encore, il a procédé à une consultation citoyenne, un référendum en 2016, qui avait pour but la création de nouveaux droits. Ça, c'est un fait. Et le constitutionnaliste, le juriste, est mieux placé que peut-être tout le monde pour en parler. Et justement, ces révisions visaient la participation, notamment des candidats, donner le droit aux citoyens d'être candidats à toutes les élections, ce qui n'était pas avant le cas. Le référendum renforçait aussi l'opposition notamment le chef de l'opposition. Et pour moi qui suis à la diaspora, pour la première fois dans l'histoire politique du Sénégal, des députés de la diaspora a été consacré par cette révision constitutionnelle.
Donc, d'après vous, vous dites que Macky Sall a consolidé les acquis de la mobilisation du 23 juin, il a renforcé la démocratie ?
Absolument, en élargissant les pouvoirs du Parlement en matière de contrôle de la gestion gouvernementale et la reconnaissance de nouveaux droits aux citoyens. Tout ça, c'est dans la Constitution. Mieux encore, quand il est arrivé élu, plébiscité même en 2019, avec 58%, on pouvait se dire qu'il est confortablement élu, il peut dérouler. Mais il a dit non. Comme il y a des contestations sur le fichier, sur le processus, il y aura un audit, il y aura une concertation nationale. Et aujourd'hui, au moment où nous parlons sur les 27 points, les 29 revendications de l'opposition, 27 de ces points, de ces revendications, ont fait un consensus. Donc je pense que l'essentiel a fait l'objet d'un consensus, notamment l'audit du fichier. Le fichier a été approuvé, en tout cas déclaré fiable par les experts. Je cite juste ceci pour illustrer
ce
que je dis. Macky Sall, en instaurant le dialogue national, avait dit ceci en ouvrant justement l'ouverture de ce dialogue. J'ai souhaité engager un dialogue national pour discuter avec toutes les forces vives des questions majeures qui interpellent notre pays.
Merci.
Au-delà de nos divergences, nous avons en commun le Sénégal. La compétition pour l'accès au pouvoir n'est pas incompatible avec la concertation, dit-il, qui est plus... en tout cas, on dit même souvent que c'est le champion du dialogue national.
Merci beaucoup. Est-ce que le dialogue, excusez-moi, je ne sais pas si le dialogue national signifie démocratie. Monsieur Bodj, en tout cas, est-ce que vous pouvez nous donner votre analyse, puisque vous avez commencé à en parler dans la première partie de l'émission, votre commentaire, votre appréciation du niveau de la démocratie et des libertés publiques aujourd'hui au Sénégal. Est-ce que ce niveau est à la dimension de la bataille menée par le M23 il y a 10 ans, justement, pour défendre ces principes?
Merci beaucoup. J'aimerais, avant de venir justement à la question, dire si aujourd'hui, malheureusement, je ne suis pas parti pour commémorer la manifestation, le 10e anniversaire du M23, mais si je devais y être, je vais aller au niveau de la manifestation du MDD. Parce que je crois
C'est-à-dire de l'opposition?
Oui, cela est beaucoup plus conforme, à mes yeux, justement, à l'esprit du 23 juin. Pour dire, pour venir à votre question, en analysant les 10 ans, les 9 ans de pouvoir du président Macky Sall, il y a eu beaucoup de déconstruction d'acquis démocratiques. Les questions des libertés, les questions relatives justement au processus électoral. Aujourd'hui au Sénégal, on a environ un potentiel électoral donc de 9 millions, le fichier électoral c'est 6 millions. Parce qu'on a empêché aux Sénégalais d'accéder à la carte d'électeur.
Mais ce fichier a été validé par les experts, estimant.
Non, les experts n'ont jamais validé. Ils n'ont jamais validé. Moi, je suis spécialiste des questions électorales. Ils n'ont jamais validé, justement, donc, ce fichier. Ils ont fait des recommandations, une trentaine de recommandations.
Ça dépend du côté où on se trouve, mais la lecture que les autorités en ont fait, c'est qu'il y a eu...
C'est une lecture trompe-l'œil. Ils n'ont jamais dit que le fichier est viable.
D'accord.
Voilà, et pourquoi les recommandations? Autant de recommandations justement pour rectifier, pour corriger justement le fichier électoral.
D'accord.
C'est la raison pour laquelle jusque-là, la révision électorale n'est pas lancée pour en perspective des élections, les élections locales.
Donc pour vous, vous estimez, docteur, qu'il y a eu un recul de la démocratie et des libertés pour lesquelles les Sénégalais sont sortis en 2010, en 2011?
C'est profond d'ailleurs. N'est-ce pas? Il y a une déconstruction, surtout en utilisant la majorité parlementaire, en instrumentalisant justement la justice. Aujourd'hui, ce que le président Macky Sall a fait, ça n'a jamais existé dans ce pays-là. Il modifie le code électoral pour éliminer les adversaires, l'article 57 du code électoral. C'est un abattoir électoral. C'est là-bas qu'il a mis Karim Watt, c'est là-bas qu'il a mis Khalifa Sall. Et donc Ousmane Sonko, en vérité, il est attendu justement au niveau de l'article 57. Il suffit d'être condamné à un mois de sursis pour que tu sois plus candidat à une élection présidentielle. C'est-à-dire que tu peux ne pas être disqualifié par le juge, mais tu es disqualifié justement par Macky Sall. N'est-ce pas? Donc ça, c'est des choses qui sont palpables. Et ça, les gens se sont battus pour que pour que ces choses-là ne soient
mais
pas...
Mais excuse-moi, docteur Bodu, de quelle façon se traduit aujourd'hui l'héritage, selon vous, du M23 dans le, au niveau du pouvoir de Macky Sall, en un mot?
Non, au niveau du pouvoir de Macky Sall...
Il y a quand même quelque chose qui est resté.
Non, rien du tout. Moi, je ne pense pas. C'est-à-dire que le respect de la Constitution, le respect des valeurs démocratiques, on ne peut pas dire aujourd'hui qu'il y a quelque chose justement qui reste. Alors aujourd'hui, le débat qui se pose au Sénégal, c'est la question du troisième mandat. Tout sauf Watt, c'est parce que Watt briguait un troisième mandat.
D'accord.
C'est ce débat-là qui se pose. Macky Sall a utilisé la Constitution pour faire une véritable fourrure à la Constitution changée. Il a parlé, Le Fleur a parlé de, comment dirais-je, de renforcement du contrôle. Mais le président Macky Sall, il a changé le régime politique sénégalais. Le régime politique, on l'avait fondé par référendum en janvier 2001. Par la voie parlementaire, le président Macky Sall a changé le régime politique sénégalais. Aujourd'hui, l'Assemblée nationale ne dispose plus de pouvoir. Il n'y a plus de questions de confiance. Il n'y a plus de possibilité de motion de censure. Toutes ces questions-là ont été enlevées.
Pardon, mais en même temps, Beno Mbok Yakar, la coalition au pouvoir est majoritaire à l'Assemblée nationale. Donc, est-ce que
non,
c'est la faute?
C'est pas parce que Beno Mbok Yakar est majoritaire à l'Assemblée nationale qu'il faudra justement déconstruire les acquis démocratiques.
Merci
les
beaucoup.
Les acquis démocratiques, on doit les maintenir.
Merci.
L'Assemblée nationale n'est pas destinée à voter des lois scélérates.
Merci, docteur Mbodj. Je vous propose de marquer une dernière pause et on se retrouvera pour conclure le débat et en sachant notamment, est-ce qu'on peut revivre un 23 juin 2011 au Sénégal?
Africa. Le grand rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
Et que restait-il de l'héritage du M23 au Sénégal 10 ans après? Où en sont les principes démocratiques pour lesquels les manifestants s'étaient mobilisés? Nous en parlons ce soir avec Kafour Kandi, membre de la coordination du mouvement Il y en a marre, il est à Dakar. Docteur Abdoulaziz Mbodj, docteur en droit public, et Abdou Fleur, juriste cadre de l'APR ici en France. Je pense que c'est à votre tour maintenant, Monsieur Fleur, Monsieur Kandi, de réagir. Peut-on revivre le M23, Monsieur Kandi, justement au moment où Monsieur Mbodj le disait, le débat sur le troisième mandat de Macky Sall en 2024 fait rage?
Moi, je pense qu'on a déjà vécu, on a déjà vécu un événement comparable au 23 juin, c'est-à-dire en mars. Les événements qu'on a vécu sont plus sanglants, sont plus violents comparé au 23 juin. Maintenant, je pense que...
Mais l'objet n'était pas forcément politique. Il ne s'agissait pas d'une mobilisation contre un éventuel troisième mandat, comme ce fut le cas pour Abdoulaye Wade en 2011.
En fait, je parlais du caractère quand même de cette manifestation en termes de violence, en termes de dégâts matériels et autres. Mais oui, est-ce qu'on en arrive là? Tout porte à croire aujourd'hui, au moment où le président refuse de se prononcer pour un oui ou pour un non, s'il va être candidat ou non. Et on sait tous que toutes les personnes qui ont pris position en disant non, le président n'a pas droit à une troisième candidature, il les a éliminés, il les a limogés. Et d'autres qui disent le contraire, il n'y a rien, c'est l'omerta. Donc tout porte à croire qu'on va vers ça. Maintenant, le peuple reste ce qu'il est. Le Sénégal, on avait tous cru qu'il y a 4 mois, les Sénégalais avaient perdu leur capacité d'indignation. Mais les événements de mars ont prouvé que non, nous gardons toujours notre capacité d'indignation et nous n'hésiterons pas à descendre sur la rue pour dire non. Maintenant, Macky Sall a bafoué l'héritage du M23, mais nous restons, nous Sénégalais, en tout cas nous citoyens, nous restons déterminés à consolider ce qu'il y a, ce qui nous reste comme démocrates et tout.
Merci.
Et je voudrais juste ajouter une chose aujourd'hui. Quand vous parliez de qu'est-ce qui reste, est-ce qu'il y a quelque chose de positif que Macky Sall garde aujourd'hui comme héritage? Il n'y a rien. Par exemple, parlons de l'esprit de la dévolution monarchique aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que la famille du président est aujourd'hui omniprésente dans les affaires de l'État. Donc ça, c'est un exemple fatal. C'est un indice qui prouve que le président n'a rien retenu de ce qui s'est passé le 23 juin.
Merci beaucoup, M. Kandier. Je suppose que vous êtes à la manifestation du M2D, justement, sur les 10 ans du M23. Abdou Flore, je vous laisse réagir au propos de M. Kandji, qui n'exclut pas une possibilité de revivre la mobilisation, comme ce fut le cas il y a 10 ans, contre un éventuel troisième mandat de Macky Sall.
J'aimerais rebondir sur beaucoup de ces questions, malheureusement. Il a assez parlé, cependant, quand même oser dire qu'il ne reste rien de cet héritage, c'est assez grave quand même, c'est assez grave. J'ai juste envie de lui dire ceci, que la démocratie, tout comme les valeurs républicaines, ne sont définitivement acquises. Voilà, elles doivent être par faire consolidées par le pouvoir et l'opposition, la classe politique, la société civile. En tout cas, toute la stratégie de l'opposition, ou du moins d'une certaine opposition, c'est de faire vivre au Sénégal un autre 23 juin. Mais je pense que c'est peine perdue, parce que ce qui est important aujourd'hui, c'est vraiment de s'inscrire dans le développement, dans le plan Sénégal émergent. Tout n'est pas rose, mais il faut, avec la participation de toutes les forces vives de la nation, à travers ce dialogue national, s'unir autour de l'essentiel, s'asseoir autour d'une table et discuter des vraies questions. Le Sénégal vient de découvrir du pétrole, du gaz. On sait le syndrome qui entoure toujours ces découvertes, que Dieu nous en préserve. Je pense que l'enjeu aujourd'hui, c'est ça. Mais ce n'est pas parler d'un troisième mandat.
Mais excusez-moi, le président non plus n'a pas aidé à trancher le débat, puisqu'il ne veut pas dire clairement ce qu'il n'est pas en lice pour un troisième mandat.
Au nom de quel principe il doit se prononcer, ou il a l'obligation de se prononcer? Dans quel pays au monde?
Au moins pour faire taire le débat.
Se prononce au début de son mandat? Non, y compris dans ce pays où nous vivons. Les présidents ont une obligation légale de déclarer leur candidature, de déposer leur candidature. Il y a un temps à tout. Au Sénégal, malheureusement, on passe tout notre temps, toute notre énergie à faire de la politique. Il y a un temps pour la politique. Les élections ont été gagnées par le président à 58%. On le laisse dérouler.
D'accord. Donc pour vous, Monsieur Flore, pour nous résumer en un mot, vous dites que en 10 ans après la mobilisation du M23, la démocratie et les libertés publiques ont progressé avec Macky Sall.
Tout à fait. Et je viens d'énumérer quelques illustrations. Et contrairement à ce qu'a dit Monsieur Kandji tout à l'heure, en tout cas, le Sénégal a une belle signature. Est très bien vu sur la scène internationale. Le Sénégal est invité dans les grands sommets, comme le G7, qui est quand même l'un des sommets les plus importants au monde. Beaucoup de dirigeants du monde sont venus à Dakar ces dernières années.
Merci.
Cela illustre quand même le Sénégal est une grande démocratie. Et consulté sur les grandes questions internationales. Donc, ceci étant, il y a encore des efforts à faire, puisque aucune œuvre humaine n'est parfaite.
Merci beaucoup.
Ça doit se faire avec la contribution de toutes les forces vives de la nation.
Docteur Mbodj, je vous laisse conclure en une minute ce sujet. Donc, vous maintenez que la démocratie a régressé et que les questions de bonne gouvernance et de l'état de droit aussi?
Absolument.
Malgré les arguments de M. Flore?
Non, Monsieur Flore, il fait un positionnement politique seulement. Donc, il défend sa chapelle simplement. Mais lui-même sait que donc il y a la reculade est extrêmement importante. Voilà. Donc bon.
Mais dans ce cas, comment sauver l'héritage du M23 aujourd'hui? Comment le préserver et le promouvoir peut-être aussi?
Non, je disais que c'est un esprit, c'est une philosophie. Respect de la Constitution, respect des libertés constitutionnelles, donc une bonne gestion justement donc des affaires publiques. Et cela, il faut un changement politique. Le changement politique fait partie de la démocratie. Aujourd'hui, la limitation du nombre de mandats, aucun des présidents sénégalais n'a accepté de se soumettre à la limitation du nombre de mandats. Toujours, ils ont trouvé un prétexte, soit Abdou Diouf il a modifié, Ablaye Wade il a interprété, Macky Sall veut interpréter. Alors, donc, c'est-à-dire qu'il est à la croisée des chemins. il est dans son dernier mandat. C'est seulement au Sénégal qu'il y a un flou autour de ça. Que voilà donc sur quel principe il faut se baser pour qu'il dise qu'il ne doit pas être candidat. Le texte constitutionnel est extrêmement clair. Donc Macky Sall ne peut pas être candidat. Il fait une tournée pour se donner bonne conscience, pour tâter le pouls de la population, pour voir est-ce qu'il peut tenter de briguer un troisième mandat.
Et en quelques mots, aujourd'hui, quelle est la position du peuple sénégalais qui avait arbitré justement ce débat en 2011? Est-ce que vous pensez qu'il est prêt à accepter ou il y aura un nouveau 23 juin?
S'il tente de le faire, il aura encore un 23 juin beaucoup plus violent, beaucoup plus mobilisé. Ça c'est ma évidemment la condition de la réussite, c'est de l'unité de l'opposition. L'opposition sénégalaise est fractionnée, contrairement à l'opposition de 2011 qui était tous autour des assises, autour justement de Benon Sigel Sénégal avant la naissance du M23. Merci. L'opposition sénégalaise est fractionnée en front de résistance, en MDD, en coalition Jotna, etc., etc. Donc si l'opposition veut faire face, il faut qu'il soit uni.
Merci beaucoup, docteur Abdelaziz Mbodj, docteur en droit public. Merci à Abdou Flore, juriste et cadre de l'APR en France, et Kafor Kandi, membre de la coalition du mouvement Yernamar à Dakar, d'avoir participé à ce débat sur les 10 ans du M23 au Sénégal.